On va prier Dieu. Ben, je vais arrêter le piano. On va prier que le Saint-Esprit nous éclaire à nouveau. Seigneur Dieu, tu as appelé les mages de la Perse à venir adorer ton fils dans la crèche. Les mages n'étaient pas juifs. Les mages, c'était les premiers non-juifs qui t'ont adoré. Nous t'en prions. Renouvelle aujourd'hui cette grâce pour ton Église. Appelle-nous. Fais-nous entendre ton appel de l'Évangile pour que nous venions nous aussi adorer ton Fils, notamment dans la Sainte Seine, où il nous donne communion à son corps et à son sang. Viens, Saint-Esprit, viens éclairer cette parole que nous connaissons par cœur, celle des mages, que nous l'entendions nouvelle. Amen.
Amen.
Alors, le récit des mages, il est raconté par Matthieu, seulement par Matthieu, au chapitre 2. Donc, nous lisons Matthieu 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'en étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Alors on va commencer par revenir un petit peu en arrière. À l'époque où les Hébreux n'avaient pas encore rejoint la terre promise, Canaan, un mage très important de ces temps-là, il est tellement important qu'on en parle, on a trouvé un document en 1967 qui parle de ce mage Balaam qui était puissant et qui je ne sais plus exactement ce que Matthias m'en avait dit, mais des textes autres que la Bible parlaient de ce mage Balaam particulièrement puissant. Et ce mage, donc ce magicien, avait été appelé par le roi de Moab, pour maudire Israël. Le roi de Moab, on avait ras-le-bol d'Israël, il a fait venir le mage, il a dit: tu es tellement magicien, tellement magique, que tu vas prononcer une malédiction sur Israël, et Israël disparaîtra. Et on peut le trouver dans la Bible. Il n'a jamais pu le faire, voilà. Il n'a jamais pu, trois fois il a essayé, trois fois ça n'a pas pu se faire, et au contraire, il a prononcé une bénédiction sur Israël. Alors, ça peut nous paraître un peu bizarre pour nous occidentaux, voilà, on prononce une malédiction, il se passe quelque chose, mais il y a encore des peuplades aujourd'hui qui le croient vraiment, qui croient en malédiction et qui le vivent. Michel pourrait sans doute en témoigner, Michel Schaeffer au Bénin. Et donc, Balaam a essayé trois fois, il n'a pas réussi, il a prononcé ses bénédictions. Je vois ce qui arrivera. Donc c'est il devient prophète de Dieu alors qu'il était ennemi de Dieu. Il était payé sans doute pour être ennemi Je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. Un astre apparaîtra parmi les descendants de Jacob. Un roi souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. Voilà, Balaam, il a annoncé un astre qui se lèvera parmi le peuple juif. Alors on remarque au passage que personne n'échappe au plan de Dieu. Ce que Dieu a décidé, là, il l'a fait dire par Balaam. Il a utilisé un non-juif pour un potentiel ennemi, pour un homme qui avait prévu de détruire Israël par sa malédiction, il l'a utilisé pour bénir Israël. Alors ça me rappelle Saul de Tarse. Je pense que beaucoup savent qui est Saul de Tarse. C'est cet homme qui était sur sa monture. Il était un farouche ennemi des nouveaux convertis à Jésus, des juifs croyant en Jésus. Et puis d'un seul coup, révélation de Dieu, paf, il tombe de son cheval et il devient l'apôtre Paul qui nous a laissé tous ces textes. Par l'onction du Saint-Esprit, il devient un homme de Dieu. Et je pense aussi à Pilate qui a reconnu publiquement la royauté de Dieu. Alors Pilate, c'est celui qui a fait tuer Jésus. Et puis au dernier moment, il a dit, mais mettez un petit écriteau là au-dessus de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. C'était sans doute pour se moquer. Mais il n'empêche que maintenant, quand vous rentrez dans une église, ou quand vous voyez quelqu'un avec son crucifix, il y a toujours ce petit écriteau là, celui-ci est le roi des Juifs, inérit en lui. Donc Dieu a utilisé la mauvaiseté, la méchanceté de Pilate pour proclamer quelque chose de son royaume. Oui, Jésus est le roi des Juifs. Alors revenons à cette prophétie valable. Les mages dont on parle, tout le monde dit que ce sont des rois mages. Non, non, ce ne sont pas des rois. Certainement pas des rois. Et les mages dont on parle ici, ce sont sans doute des astrologues philosophes. Aristote se réfère à eux. Aristote dit qu'il est descendant de ces mages-là. Donc des astrologues, des gens dont le terrain de recherche c'est le ciel et les étoiles. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Parce que Alain aime beaucoup le ciel et les étoiles. Et entre savants, on discute. Aujourd'hui, on écrit des articles dans des revues hyper spécialisées. C'est d'ailleurs une course à l'échalote pour avoir le meilleur article dans la meilleure revue. Mais du temps des mages de Babylone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la revue Nature ou je ne sais pas quoi. On échangeait entre astrologues, on se racontait. Et en Babylone, à Babylone, il y avait encore beaucoup de juifs. Les juifs ont été exilés pendant des années à Babylone et beaucoup étaient restés là-bas. Je précise que c'est à Babylone qu'a été écrit le Talmud. Alors on échange ses connaissances, ses découvertes. On échange ses attentes aussi. Puis sans doute qu'il y a des juifs qui ont dit, tiens, il a été dit qu'il y aurait un astre au-dessus d'Israël. Et c'est sans doute comme cela que les mages perses, dont il est question ici, ont eu connaissance de la prophétie de Balaam. Un savant, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas grand-chose et qui veut en savoir plus. Il veut aller plus loin. Or, on sait que Jésus n'est pas né en l'an 0. C'est une erreur. Il est né sans doute en l'an moins 6. Et on le sait, il y a eu une conjonction de Jupiter et de Saturne 6 ou 7 ans avant la date officielle de l'an 0, prononcée comme étant celle de l'an Jésus-Christ. Alors, est-ce que cette conjonction de Saturne et de Jupiter a été un signe naturel que Dieu a utilisé pour accomplir la prophétie de Balaam? Sans doute, on peut le penser. En tout cas, ils ont vu un astre, ces astrologues qui avaient parlé avec d'autres astrologues, et ils ont interprété cette apparition de l'astre, comme étant celui du roi des Juifs annoncé par Balaam. Alors c'est logique, ils cherchent, ils veulent en savoir plus, et bien ils vont à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est logique parce qu'un roi ne peut pas vivre ailleurs que dans une capitale. Le roi des Juifs ne peut pas vivre ailleurs que dans la capitale des Juifs. Alors évidemment, il n'y a que Matthieu qui en parle, il n'en parle pas beaucoup, on ne peut pas vraiment connaître leur motivation, mais on réfléchit. Moi, ce n'est pas dans mon camion que je réfléchis, c'est devant mon ordinateur, mais je réfléchis, je me pose des questions. Qu'est-ce qui a poussé les mages à partir? C'est peut-être la curiosité astrologique. Voilà, on nous a parlé de quelque chose, on veut en savoir plus. D'accord. Mais ce qui m'a frappé quand même, c'est que quand ils sont arrivés... Non, je vais lire ce que j'ai écrit, sinon je me perds. La curiosité astrologique, d'accord, mais sans doute un petit autre chose quand même. Parce qu'ils sont venus pour rendre hommage au roi des Juifs. D'où leur cadeau de roi, la myrrhe, l'encens et l'or. Alors, est-ce que les mages ont eu la foi avant de commencer leur voyage? Ils n'étaient pas d'Israël, mais ils étaient quand même persuadés de rencontrer le roi des Juifs. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils n'ont pas dit « Tiens, est-ce qu'il y a un petit bébé qui est né là récemment puis qui serait le roi des Juifs ?» Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit « Où est-il ?» Les mages sont venus avec la foi qu'il y avait bien le roi des Juifs qui venait de naître. Alors là, je me suis dit, bah, dis donc, nous qui sommes dans l'évangélisation, là, dans la recherche vraiment de transmettre ce que nous connaissons et qui nous fait vivre, hein, les Juifs qui sont restés à Babylone, ils ont réussi à transmettre leur espérance, au point de mouvoir toute une caravane, parce que nous, dans nos crèches, il y a trois petits bonshommes qui se promènent là, mais à l'époque, on ne se promenait pas à trois, hein, on ne traversait pas le désert à trois, on se traversait le désert dans une caravane, avec plein de monde, pouvoir se protéger. Et ce n'était pas seulement trois bons hommes, il y avait aussi leurs serviteurs, il y avait sans doute des guerriers. Enfin, on peut imaginer, Matthias me dit, mais on peut imaginer une caravane de 40 personnes, quoi. Et ils sont pas venus en deux jours. Ils ont dû traverser de Babylone jusqu'à Jérusalem. Ça fait une petite trotte en dos de chameau, hein, puis je suis pas sûre que ça aille très très vite, les chameaux. Donc ils ont traversé tout ce temps-là sur l'espérance que leur avaient donné les Juifs qui étaient restés en Babylone. À Babylone. Et moi, Sophie Almeyer, moi, Christine, moi, Alain, moi, Josias, est-ce que je suis capable, moi, de transmettre une telle espérance autour de moi, au point qu'il y en a qui viennent voir, finalement? Ouais, je vois des têtes qui acquiescent, ou qui font des têtes qui me laissent penser qu'ils sont comme moi, quoi. Ouais. Est-ce que moi je suis capable de ça? Est-ce que ce dont je témoigne, ça peut donner envie à d'autres de traverser le désert pour aller voir ce qui se passe? Alors, on revient sur l'hommage. Ils arrivent à Jérusalem, et là, plus d'astres. C'est le désastre, il n'y a plus d'astres. C'est la fin du voyage, et il n'y a pas de roi. Enfin, si, il y a un roi. C'est Hérode. Parce que Hérode, il a acquis des Romains le privilège de se faire appeler roi des Juifs. Et ce privilège, il a été acquis chèrement pour d'autres. On dit qu'à Jérusalem, la question des mages produit une effervescence. Hein. On dit que Hérode est troublé et la population aussi. Ben oui, parce que la population connaissait bien la paranoïa d'Hérode. Hérode, juste à ce moment-là à peu près, de la naissance de Jésus, il a fait tuer deux de ses fils. Parce qu'il pensait qu'il fomentait un complot contre lui pour prendre sa place. Il a tué Alexandre et Aristobule. Et après, il a tué un troisième de ses fils, Antipater, parce qu'il pensait que ses enfants voulaient prendre sa place. Donc on peut sans difficulté admettre que, en effet, Hérode a fait tuer tous ses petits-enfants de moins de 2 ans. Parce que, je ne sais plus si le texte le dit, mais Hérode, quand il a su... Il a demandé aux mages depuis combien de temps à peu près l'astre s'est élevé, donc ça donnait une idée de quand Jésus était né, et il a fait tuer tous les petits-enfants de moins de 2 ans pour éliminer le risque qu'un roi se lève. Donc Hérode était fou. Alors il paraît qu'il a fait des choses magnifiques. L'esplanade des mosquées, c'est lui qui l'a faite. Le village fortifié là tout en haut à Gada,
Masada,
c'est lui qui l'a construit, voilà. Enfin, il était quand même fou. Donc les mages arrivent à Jérusalem, j'allais dire à Thiers, non, les mages arrivent à Jérusalem, ils demandent où est le roi des Juifs. Alors Hérode, il interroge les prophètes, et en l'occurrence le prophète Michée. Et là, on lit. Et toi, Bethléem, terre de Juda? Ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Non, c'est pas celui-là. Alors, donc on dit à Hérode, ben voilà, ce bébé va naître à Bethléem. Et donc, fort des indications que leur ont données les scribes, ceux qui ont copié la Bible, là, qui donc connaissent la Bible, les mages sont repartis à Jérusalem. Et là, miracle, l'astre surgit à nouveau et les conduit à l'enfant et à sa mère. Si on regarde l'astre, il a lui de Babylone, enfin Babylone c'est par là, il a lui de Babylone à Jérusalem, et en luisant, il a conforté la prophétie de Balaam, celle qu'ils ont entendue des savants perses, des savants juifs en Perse. Voilà. L'astre, il a conduit pour, et en même temps, il confortait la parole de Dieu. Puis, de Jérusalem à Bethléem. Et là, il conforte la prophétie de Michée. Et pendant que les mages se sont trompés de roi, le temps qu'ils étaient à Jérusalem, l'astre ne luisait plus. En fait, on peut penser, c'est ce que je pense, c'est ce que je me suis dit dans cette méditation, l'astre qui confirme la parole de Balaam, puis qui confirme la parole de Michée, eh bien, il confirme la parole divine donnée. C'est un signe qui accompagne la parole de Dieu, comme les miracles qui nous sont racontés dans les évangiles. Les signes sont là pour confirmer la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Matthieu nous précise qu'ils éprouvèrent une très grande joie. Pourquoi il a eu besoin de dire, une fois qu'ils ont retrouvé l'astre, ils ont eu une très grande joie? Alors, est-ce que c'est parce que l'astre a recommencé, parce que, voilà, ils sont astrologues, ils ont retrouvé leur repère, ils sont super contents, c'est la joie de l'astrologue, l'astre est là, voilà, on est sur le bon chemin. On est des bons astrologues. Est-ce que c'est ça? Ou bien, est-ce qu'à ce moment-là, ils ont été habités de la joie profonde, indicible, quand on rencontre Dieu? Et certains d'entre nous l'ont sans doute déjà vécu. Cette joie dont on ne peut pas parler, une joie, alors on dit très grande, bah ouais, très grande. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on vit vraiment. Cette joie-là profonde, de la rencontre de Dieu avec moi. On peut réfléchir à se mettre 10 secondes là en présence de cette joie quand Dieu vient à notre rencontre. Et se mettre en contact de cette joie, c'est pour rendre grâce à Dieu, et c'est aussi pour restaurer notre âme, pour lui faire du bien, pour la nourrir et pour la réparer. Oui, ce que je vis en ce moment, c'est difficile. Oui, je ne sens pas la grâce de Dieu, mais il y a bien eu des moments dans ma vie où j'ai profondément ressenti cette joie de Dieu, où j'ai profondément su dans ma tête, et ça a produit un effet sur moi. Alors, pour rencontrer Jésus, les mages, je vous le rappelle, les mages ne sont pas juifs, ce sont les premiers non-juifs qui sont venus adorer Dieu. Eh bien, ces mages, ils ont eu besoin de la parole de Dieu dont les juifs sont dépositaires. Alors, pour dire vrai, la prédication de Matthias sur laquelle je me suis appuyée, elle développe ça pendant 20 minutes. Moi, je ne suis pas à l'aise avec, enfin, je ne le contrôle pas, je ne le maîtrise pas assez. Donc, si vous voulez en parler avec lui, il sera ravi de vous en parler. Moi, je vais me contenter de vous dire que vous rappelez que les mages et les non-juifs ont eu besoin de la parole de Dieu gardée par les juifs. On ne peut pas faire l'impasse du premier testament si on veut comprendre le deuxième testament. C'est pas possible. Ce Jésus que les mages ont trouvé, c'est le grand Dieu d'Israël annoncé dans les Écritures. Et la grande nouvelle, c'est que ce grand Dieu d'Israël, c'est aussi ton grand Dieu à toi. C'est mon grand Dieu à moi. Je ne suis pas juive, je ne suis pas de culture juive, mais j'hérite de toutes les promesses, toutes les bénédictions faites aux juifs. Et les mages ne se sont pas prosternés devant un roi des juifs, comme s'ils s'étaient prosternés comme un homme devant Hérode, par exemple. Ils se sont prosternés devant un enfant juif, qui est le Seigneur Dieu d'Israël, et qui est aussi le Seigneur Dieu de toi, de moi. Et il n'y a pas plus juif que Jésus. C'est même le roi des juifs. Il n'y a pas plus juif que lui. Alors on va terminer cette prédication en revenant vers les mages qui sont devant Jésus. Les mages, voilà. Ils sont allés de Babylone à Jérusalem, ils ont demandé leur chemin, on leur a donné la parole de Dieu, ils sont repartis avec l'astre au-dessus d'eux, ils sont arrivés devant Jésus. Alors Jésus, son doute était grand, hein, parce qu'entre le moment où l'astre a luni et le moment où ils ont fait leur grand voyage, il y a bien peut-être une année qui a passé. Hein. C'est pour ça que Hérode a pris de la marche, il a tué tout l'enfant de moins de 2 ans. Hein. Donc il se retrouve dans une maison, il est précisé que c'est dans une maison, c'est plus une étable, ça n'est pas un bébé, c'est un tout petit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avant de rentrer chez eux pour écrire leur fameux article là, astrologique, sur la revue Nature ou Science? Ils se prosternent, ils adorent et ils offrent des cadeaux. De la myrrhe, de l'encens, c'est-à-dire du parfum, et de l'or. On est d'accord que ce n'est pas des cadeaux pour un bébé, surtout un bébé qui est né dans ces conditions. Et en voyant la simplicité dans laquelle vivait ce roi, parce que son bébé était un roi, ils en étaient persuadés, ils n'ont pas été au souk du coin pour changer leur cadeau. Ils ne se sont pas adaptés. Ils sont venus tels qu'ils étaient, avec toutes les richesses qu'ils avaient apportées. Et ça m'a fait penser aux bergers. J'ai relu le passage des bergers qui sont allés voir Jésus. Ils n'ont pas dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe. On va d'abord aller se changer, mettre un peu d'après-parfum, rasage, et puis mettre des beaux habits. Non, ils sont venus tels qu'ils étaient, sans doute avec leurs habits, peut-être un peu sales, il y avait peut-être dans les crocs de mouton, ça colle pas au tableau. Enfin, voilà, ils sont peut-être venus avec leurs moutons, avec leur chien, peut-être ça faisait du bruit, peut-être que ça bêlait dans tous les sens. Ils sont venus tels qu'ils étaient pour adorer ce roi si étrange. Alors encore une question derrière mon ordi. Moi, quand je viens vers Jésus, comment je viens? Est-ce que j'ose venir vraiment tel que je suis, tout entière, même avec mes oripeaux et mes gros codillons? Est-ce que je viens avec tout ce que j'aime en moi et aussi avec tout ce que je veux cacher? Est-ce que j'ose me présenter à Dieu avec tout ce que j'ose, je veux juste cacher? Quand il me fait signe, est-ce que je suis prête à tout lâcher, à tout laisser tomber tout de suite pour aller à sa rencontre? Et puis si ce n'est pas le cas, est-ce que je suis prête à lui dire, Seigneur, je ne suis pas prête, j'y arrive pas, je ne peux pas, ce que tu me demandes c'est trop. Ou bien est-ce que je mets un masque de bon chrétien, de bonne chrétienne, puis j'y arrive, avec ta force, tu vas y aller. Et enfin, la petite dernière question là. Je me suis demandé pourquoi il a fallu que les mages passent par Hérode pour arriver à Jésus. Parce que le fait qu'il soit passé par Hérode, il y a 200 petits qui sont morts. 200 garçons qui sont morts. Et le texte nous dit qu'ils ont été avertis en songe au retour. Pourquoi ils n'ont pas été avertis en songe au départ? Ça n'aurait pas été compliqué pour Dieu de leur dire « Eh oh les cocos, c'est là-bas, à Bethléem. » Non, non, faites un détour là, allez à Bethléem. Alors je me suis dit, est-ce que les mages étaient vraiment en mesure de recevoir divinement un songe sans avoir rencontré Dieu lui-même en la personne de son fils? Est-ce que les mages avaient cette capacité, cette ouverture pour entendre Dieu leur parler tant qu'ils ne l'avaient pas rencontré? Parce que là, ils ont été comme Job, ils ont pu dire, on avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu, dans la personne de ce petit garçon à qui on a offert des cadeaux. Et alors je me suis dit, eh ben dis donc, je crois bien que je viens de lire un récit de conversion. Et j'avais jamais vu ce texte comme ça. Je reprends le scénario. Les mages, en fait, avaient entendu parler de ce roi des Juifs. Ils l'ont cherché. Leur chemin a été jalonné du signe de l'astre qui luit. Ils ont eu besoin de la parole héritée des Juifs. Et ils ont rencontré Dieu en adorant son fils. Et ça, visiblement, ça a changé les choses, puisque après, la parole de Dieu, ils l'ont reçue en direct. Ils ont été divinement avertis par un songe. Et bien qu'il en soit pour nous ainsi. Amen.
Amen.